embarquez sur le canal de la philo. Une émission proposée par Victor.
À qui, à quoi faire confiance aujourd'hui pour s'informer? Comment savoir qu'on tient une information vraie ou qu'on est victime d'une infox? Problème intense dans nos sociétés d'hyper-information qui ont fait de l'éclairage de l'actualité un enjeu crucial pour orienter les opinions publiques. Mais problème en réalité vieux comme le monde, celui de l'accès à la vérité. Comment situer nos certitudes? Comment voir que l'on cède à nos penchants, qu'on se laisse séduire trop facilement par la parole que l'on souhaite entendre? C'est en réalité tout l'enjeu du rapport au monde que se doit d'instaurer la philosophie, celui du questionnement. Les certitudes sont ce qui nous permet d'avancer, bien souvent. Mais comment évaluer ces certitudes? Y a-t-il un juste milieu entre l'aveuglement des convictions et le scepticisme radical qui refuse toute prise de position?
Au fil de l'eau, embarquez sur le canal de la philo.
S'il est bon d'avoir des convictions, il est parfois dangereux d'avoir trop de certitudes. C'est tout l'intérêt de développer un esprit critique, normalement à même de débusquer les préjugés et les raisonnements trompeurs. Néanmoins, l'esprit critique a ses limites. Il peut par exemple se convertir en une impasse de la pensée. À force de tout remettre en cause, on s'enferme dans le scepticisme total, c'est-à-dire dans le refus d'affirmer quoi que ce soit. Comme rien n'est certain, rien ne peut et rien ne doit être affirmé. Cette posture, elle a un intérêt, celle d'éviter le dogmatisme, c'est-à-dire l'affirmation permanente de vérités définitives jamais questionnées. En ce sens, le scepticisme est un moment de toute philosophie. Mais en se systématisant, le scepticisme paralyse la pensée. Autre écueil possible de l'esprit critique, celui de la partialité. En appliquant la critique uniquement à certains discours, mais en entrant pleinement dans les autres qui nous arrangent, sous prétexte qu'ils se présentent eux-mêmes comme critiques, on risque de retomber dans une forme de dogmatisme inversé. C'est par exemple ce qui se passe bien souvent dans les discours conspirationnistes, et nous y reviendrons. Alors, existe-t-il une bonne manière d'exercer son esprit critique pour accéder à des idées vraies?
J'ai une question.
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 Les questions, donc, je vous rappelle que vous pouvez envoyer des remarques ou des questions par mail à l'adresse aufildelo@pigouilleradio.fr, aufildelo@pigouilleradio.fr. Oui, des questions, des suggestions, peut-être pour faire évoluer aussi un peu le format, voir ça un petit peu. Donc n'hésitez pas, sous la forme que vous voulez. Vous pouvez aussi passer par le site de Pigouille Radio et le formulaire de contact, où il y a une option pour contacter au fil de l'eau, et donc proposer éventuellement des thèmes, des choses comme ça. Voilà. Donc par mail, par le site aufildelo@pigouilleradio.fr ou le site Pigouille Radio. À bientôt.
Ça va? Ça va? Pigouille Radio.
Le problème de l'accès à la vérité est vieux comme la philosophie, peut-être même vieux comme le monde, mais on ne peut pas l'affirmer. Comment accéder à des idées vraies? En particulier, comment en apprendre de nouvelles? Platon formule ce problème dans le dialogue intitulé « Ménon », du nom de l'interlocuteur de Socrate, sous la forme d'un paradoxe qui semble rendre impossible la connaissance. En effet, de deux choses l'une, d'après Socrate. Soit je sais déjà une chose, soit je ne la sais pas. Si je la sais déjà, je n'ai pas besoin de l'apprendre. Et si je ne la sais pas déjà, comment vais-je savoir qu'elle est vraie? Comment vais-je avoir l'idée même de la chercher, puis la possibilité de la reconnaître comme vraie? Donc, soit je sais déjà une chose, soit je ne peux pas accéder à une chose nouvelle. Socrate ne va pas s'enfermer dans ce paradoxe, il va donner comme solution à ce problème une théorie un peu étonnante pour nous, celle de la réminiscence ou de la remémoration. En réalité, les connaissances que nous percevons comme nouvelles lorsque nous les apprenons ne sont pas vraiment pour notre esprit, qui ne ferait en fait que s'en souvenir. Je vous passe les détails, mais tout cela s'inscrit dans une certaine conception de la vérité comme unique et absolue, liée à des idées éternelles et accessibles à l'esprit hors de la vie terrestre, et réaccessibles par la philosophie en partie. Alors, c'est pas sûr que cela corresponde encore à nos visions contemporaines de la vérité, où nous avons un peu déconstruit au fil du temps l'idée d'une vérité absolue, éternelle, définitive, ne serait-ce que par les sciences expérimentales. Alors, que nous reste-t-il, si même Platon nous fait défaut? Il nous reste plusieurs risques dans notre rapport à la connaissance. En premier lieu, le risque de la précipitation. Aller vers l'hypothèse la plus séduisante, prendre des raccourcis pour trouver la solution, ne plus se préoccuper. C'est efficace, on n'est pas mis face au doute trop longtemps, mais le risque est évidemment énorme d'affirmer des énormités, justement, qui auront l'apparence de la vraisemblance. Le remède contre ça, en partie, c'est la philosophie, c'est-à-dire le refus des solutions simples. Maintenir le questionnement le plus longtemps possible pour éviter de sombrer dans un dogmatisme toujours nuisible. Mais justement, un autre risque en maintenant ce questionnement, c'est celui de s'enfermer en lui, de ne plus chercher de solution, de rejeter la possibilité même de la connaissance. Et c'est donc le risque que j'ai mentionné tout à l'heure, le risque sceptique. Le scepticisme, c'est une école de pensée de l'Antiquité qui a systématisé le doute, qui s'est appuyé sur l'impossibilité logique de démontrer l'existence de la vérité. Alors ça veut dire quoi? Les sceptiques ne disent pas que tout est faux. Ce serait dire une chose qui se prétendrait vraie. Donc, ce n'est pas cohérent. Ils se contentent d'affirmer qu'on ne peut jamais s'appuyer sur la notion de vérité. Donc, ce n'est pas que tout est faux, c'est que on ne peut pas savoir si une chose est vraie ou fausse. Et pour le justifier, ils expliquent que toute démonstration qui prétend être vraie doit d'abord savoir montrer ce qu'est le vrai. Mais elle ne le peut pas sans supposer que ce qu'elle dit est vrai. Parce que dès que j'affirme quelque chose, je l'affirme comme une vérité. Donc si je veux démontrer ce qu'est la vérité, je dois déjà supposer la vérité. Je dois donc supposer ce que je dois démontrer. Et ça s'appelle un vice de raisonnement. Ça s'appelle une pétition de principe. C'est-à-dire se donner déjà ce qu'on est censé démontrer. Logiquement, on ne peut donc pas définir le vrai, donc on ne peut rien dire de vrai, et nous voilà coincés. Alors, peut-être que la meilleure solution, c'est d'admettre que le vrai n'est pas définissable, sans s'interdire pour autant de construire des connaissances, en retenant tout de même que leur fondement est fragile, c'est peut-être là tout l'intérêt du scepticisme. Un autre risque, qui peut suivre le refus du dogmatisme, c'est celui du relativisme. À partir du constat que plusieurs opinions sont défendables sur un sujet, on peut être tenté de les considérer comme toutes égales. Après tout, chacun pense ce qu'il veut. Tout peut s'entendre. Le relativisme est assez puissant à notre époque sous couvert de respect des individus. On dit qu'il faut respecter tout le monde, donc il faut respecter les idées de tout le monde. Alors, peut-être qu'il y a là une confusion. On confond le respect des opinions et le respect des personnes. Ça peut s'entendre, les opinions sont parfois tellement viscérales qu'elles se confondent avec les personnes, leurs identités. Mais il y a tout de même ici un glissement un peu dangereux. Toute personne est respectable, c'est incontestable, mais toute opinion l'est-elle? À l'évidence, non, puisque l'expression de certaines idées est illégale. Toutes les opinions sont-elles également valables sur le plan intellectuel, même celles qui sont légales? Là encore, sans doute pas. Et nous revoilà confrontés au problème de l'existence d'un critère. Quel est le critère qui pourrait déterminer une idée vraie, une idée fausse? Suffit-il, à la manière de Spinoza, de dire que l'idée vraie est sa propre norme, qu'elle n'a pas besoin de critères, qu'elle apparaît clairement comme telle à l'esprit attentif? C'est peut-être vrai dans certains domaines, mais est-ce applicable partout? Alors malheureusement, je ne fournirai aucune solution définitive et rassurante à toutes ces questions. C'est peut-être là l'héritage sceptique de toute philosophie. Mais ce à quoi on peut tout de même essayer de réfléchir, c'est aux moyens d'éviter les risques soulignés jusqu'ici, de les éviter ou en tout cas de les limiter. Ainsi, pour éviter la précipitation, mais aussi les risques d'un esprit critique trop partial, il faut se tourner un peu vers nos réflexes de pensée et analyser ce qu'on a pris l'habitude d'appeler les biais cognitifs. Alors, c'est un peu une expression à la mode, ce truc des biais cognitifs, donc forcément, on le prend avec un peu de recul, mais l'étude de ces biais est devenue incontournable dès lors qu'on veut comprendre notre rapport à la vérité. Alors, c'est quoi un biais cognitif ? Un biais cognitif, c'est donc, biais c'est quelque chose qui est un peu déformé, et cognitif, c'est le rapport à la connaissance. Donc un biais cognitif, en fait, c'est un raccourci pris par l'esprit pour gagner en efficacité dans sa connaissance. C'est pas forcément une mauvaise chose. On utilise des biais cognitifs en permanence qui font que on n'est pas obligé à chaque fois de refaire tous les raisonnements pour s'assurer de ce qu'on fait. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais ça peut être déformant. Alors, je vais prendre quelques exemples qui me paraissent assez clairs pour montrer les risques que nous font courir ces biais cognitifs. Le biais le plus célèbre, sans doute, et sans doute le plus dangereux, c'est le biais de confirmation. Alors, qu'est-ce que c'est que le biais de confirmation ? Eh bien, c'est la tendance que nous avons, toutes et tous, à privilégier les données, les informations qui vont dans le sens de ce que nous croyons déjà. Nous serons ainsi plus attirés par une donnée qui confirme que par une donnée qui infirme l'hypothèse que nous défendons. Et c'est ainsi qu'on finit par voir le monde à travers le prisme de ce que l'on pense déjà. On peut facilement ne trouver dans le monde que des confirmations, parce que l'esprit va sélectionner, va être beaucoup plus attentif à ce qui correspond à des choses que nous croyons déjà. Autre biais, il y en a beaucoup, mais autre biais assez courant finalement, le biais qu'on appelle de disponibilité. Et ça, ça a fort à voir avec la tendance à la précipitation. Puisque le biais de disponibilité, c'est le fait de privilégier les idées que nous avons directement à disposition dans notre mémoire, lorsque nous raisonnons, plutôt que de chercher à acquérir de nouvelles idées. Donc on va ainsi tout de suite aller vers ce qui est tout de suite disponible, c'est-à-dire qu'on va répéter, finalement, c'est un peu lié au biais de confirmation d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on va s'enfermer dans ce qu'on sait déjà parce que c'est disponible et donc on ne va pas chercher à en savoir plus. Et ainsi on se donne en plus l'illusion de tout comprendre. Mais en fait on ne comprend que ce qu'on avait déjà dans la tête. On peut citer aussi, dans cette idée toujours de précipitation peut-être, l'illusion de profondeur explicative. C'est quoi ? C'est le fait de surestimer constamment nos capacités d'explication des phénomènes. Par exemple, nous sommes à peu près tous certains de savoir comment fonctionne un vélo. Si je vous demande, est-ce que vous savez comment fonctionne un vélo ? Vous allez dire oui. Eh bien, je vous invite, si vous le souhaitez, à essayer de décrire avec précision le mécanisme d'un vélo. Un vélo simple. Voilà. Essayez de le décrire, essayez de l'expliquer. Essayez même de le dessiner simplement déjà. Et voir comment ça marche. Et là, ça risque de coincer à certains moments peut-être. Sauf si vous êtes expert en cyclisme évidemment, ce qui rend ma démonstration moins probante. Dans le même ordre d'idées, un des biais qui se retrouve dans notre recherche de vérité, c'est l'effet Dunning-Kruger, du nom de ceux qui l'ont trouvé. L'effet Dunning-Kruger, c'est la tendance de l'esprit à se sentir trop rapidement expert sur un sujet, de manière à ce que le degré d'assurance soit en proportion inverse du degré de maîtrise réelle dont on dispose. Ainsi, je lis deux articles sur un sujet, j'ai l'impression de le maîtriser, je commence à en parler avec autorité. A l'inverse, une chercheuse qui travaille sur ce même sujet depuis des années aura tendance à en parler avec mesure, en ponctuant son propos de certaines réserves, parce qu'elle en saisit réellement la complexité. Voilà peut-être pourquoi les gens qui connaissent réellement un sujet sont rarement invités sur les plateaux de chaînes dites d'information en continu, qui sont le temple des opinions dogmatiques, des affirmations à l'emporte-pièce, sans aucune forme de prudence. Car c'est peut-être là le mot-clé décisif de tout rapport à la connaissance, la prudence. Prudence face à ce qu'on entend, mais surtout prudence face à soi-même, face à ses tendances à privilégier l'efficacité. Parce que la pensée, ce n'est pas l'efficacité. Penser, ce n'est pas être efficace. Penser, c'est être lent. c'est aller contre le courant, mais surtout aller contre soi. Tout un programme.
على بالك الورد له أحوال يا ريتني أعرف يا ريتني أعرف حالك.
Ce magnifique titre du groupe français Sarab, ça veut dire mirage en arabe, qui mêle le jazz, le rock progressif, les musiques orientales pour un résultat totalement étonnant, avec une superbe partie de trombone notamment. Alors cette chanson s'appelle Yale Shahal Talbal, celui qui occupe mes pensées, en français, j'espère que j'ai bien prononcé. Je vous invite vraiment à découvrir ce groupe formidable. Penser contre soi, donc, ce n'est pas évident, mais c'est la condition d'une connaissance qui ne se précipite pas, qui ne s'enferme pas dans le doute, et qui ne considère pas non plus que tout se vaut. Penser contre soi, c'est toujours faire l'effort de se demander si on ne subit pas la mauvaise influence d'un biais. Par exemple, vouloir développer un esprit critique est évidemment une bonne chose. Ne pas prendre les paroles officielles ou dominantes pour argent comptant est plutôt sain, surtout en démocratie. Mais lorsque l'esprit critique devient la caution de tout propos allant contre les paroles officielles, quels que soient ses propos, il perd ce qui fait son intérêt. Car dans l'esprit critique, ce qui compte, ce n'est pas l'opposition. Ce qui compte, c'est l'examen toujours lucide de ce qu'on est en train d'observer. Alors, pour prolonger un peu cette réflexion et pour finir, j'aimerais dire deux mots du problème du conspirationnisme. Où on retrouve un peu le croisement de tout ce dont on a parlé là. Parce que il est souvent brandi, le conspirationnisme, comme une menace pour la démocratie, ce qu'il est, incontestablement. Mais il pose aussi et surtout un gros problème à la pensée critique. Pourquoi ? Parce qu'il semble bien posséder de nombreux critères d'un authentique questionnement. Le conspirationnisme pose comme point de départ une remise en doute sceptique de la parole officielle, ce qui est encore une fois tout à fait sain et souhaitable. Il pose que certains aspects de l'organisation de la société sont un peu obscurs et même sont parfois volontairement cachés, ce qui est là encore assez juste. Il s'appuie aussi parfois sur l'existence de complots avérés dans l'histoire. On peut prendre pour exemple le complot des fabricants de cigarettes, qui ont décidé dans les années 1950 de diluer les études dont ils avaient parfaitement connaissance sur la nocivité du tabac et son influence sur le cancer du poumon, en finançant des dizaines de recherches scientifiques, dites recherches de diversion, sur d'autres causes possibles de cancer du poumon, comme la pollution atmosphérique, comme plein de choses, de facteurs d'hérédité, de facteurs de... dont des choses qui ne sont pas fausses, bien évidemment, mais qui ont avant tout servi, avec toute une stratégie aussi de marketing mettant en avant la cigarette comme preuve de liberté, qui ont servi donc à diluer de manière totalement consciente les informations dont ils disposaient sur la nocivité de leurs produits. Donc tous ces éléments-là, tous ces points de départ de la logique conspirationniste peuvent s'entendre. Malheureusement, il y a un point de bascule. Le conspirationnisme cède sa prudence dès lors qu'il trouve un os à ronger qui soit hors du système, contre le système. Et dès lors, il n'y a plus de scepticisme, il n'y a plus de prudence, il y a l'affirmation claire et constante, avec des preuves innombrables de ce qui est affirmé. Oui, des preuves. Car la réalité est tissée de telle manière que vous pouvez à peu près trouver des preuves de n'importe quelle idée si vous sélectionnez assez soigneusement les faits. Et la complexité devient ici l'ennemi d'une pensée claire. Le monde est tellement complexe qu'on peut toujours s'arranger avec lui et qu'on cherchera toujours à lui donner une cohérence. Le conspirationnisme est malheureusement l'art de mettre de la cohérence là où le réel devient ardu, complexe à saisir. C'est sans doute pour ça que les périodes de crise sont les plus propices à l'explosion de ce genre de tendance. On considère que la première époque de conspirationnisme un peu systématique a été la Révolution française, c'est-à-dire un moment où l'esprit des contemporains avait du mal à cerner ce qui se passait. Lorsque l'esprit se sent un peu dépassé par ce qu'il expérimente, il cherche à reprendre la main, par tous les moyens. La période du Covid nous en a offert une illustration assez saisissante. On a vu fleurir très tôt des experts en épidémiologie, en vaccins, en gestion du risque, une sorte d'effet Dunning-Kruger géant, quoi. Et puis on a eu vite fait aussi de sélectionner des informations qui confirmaient ce qu'on croyait sur l'efficacité ou non du masque, sur l'efficacité ou non des QR codes permettant l'entrée dans des lieux public, et évidemment sur les vaccins, qui concentrent à peu près toutes les tendances qui soient une affirmation très dogmatique de leur efficacité quelle qu'elle soit, soit au contraire une remise en doute qui a de quoi un peu interroger tout de même. Alors évidemment, la responsabilité de la parole officielle à laquelle il est devenu parfois difficile de donner crédit est écrasante dans l'irruption et la généralisation des tendances dont je parle. Mais chacun et chacune est responsable du fonctionnement de son esprit. Et en l'occurrence, la paresse est une mauvaise conseillère de la pensée. Et accepter la complexité, accepter le caractère équivoque, le caractère pas toujours complètement cohérent à première vue de la réalité, accepter que des choses puissent nous échapper, qu'il faille parfois s'en remettre à des gens qui savent un petit peu mieux malgré tout, eh ben c'est un effort. Mais cet effort est salutaire. Et je vais conclure ici avec Spinoza, qui conclut son livre magnifique, L'Éthique, en affirmant, je cite, « ce qui est admirable est difficile autant que rare ».
Monter dans la barque des livres.
Et ce mois-ci donc dans la barque des livres, un livre qui correspond assez bien au thème de l'émission d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un livre intitulé « La Terre plate, généalogie d'une idée fausse » aux éditions Folio. C'est sorti en 2021, je crois, donc c'est pas tout récent, mais c'est quand même pas vieux. C'est un livre écrit par Violaine Giacomotto Chara et Sylvie Noni, qui se donne comme mission d'en finir avec un mythe absolument tenace qui empoisonne un peu nos conceptions du Moyen-Âge et de l'évolution des idées. Le mythe selon lequel on pensait au Moyen-Âge que la Terre était plate et qu'on se serait aperçu qu'elle était ronde ou qu'on se serait souvenu qu'elle était ronde au moment de la Renaissance, au moment des travaux de Copernic, de Galilée, et surtout des traversées de Christophe Colomb, d'Amerigo Vespucci, etc. Alors, cette idée est complètement fausse, et c'est très intéressant de le souligner, parce qu'on entend très souvent que voilà, il y a des gens qui ont été brûlés pour avoir dit que la Terre était ronde. Non, absolument pas, ça n'a jamais été un enjeu, en fait, de discussion, cette question de la rotondité, donc, de la Terre. Alors, le livre est très bien fait, puisqu'il fait vraiment un point sur l'état des connaissances au Moyen-Âge, notamment cette idée qu'il y aurait eu un oubli total des acquis de l'Antiquité, puisque dans l'Antiquité grecque, il était absolument clair que la Terre était ronde. On pensait certes que la Terre était immobile au centre de l'univers, mais on pensait bien, on savait qu'elle était ronde. Et on a commencé à raconter au XVIIe, XVIIIe siècle, surtout au XVIIIe siècle d'ailleurs, et au XIXe, que le Moyen-Âge avait oublié totalement ce savoir, sous l'influence de l'Église, qui aurait cherché à imposer quelque chose de totalement obscurantiste, et notamment cette idée de la Terre plate. Alors, l'enjeu de la mise en place de ce mythe, il est de faire ressortir encore mieux les Lumières. Hein, Voltaire est l'un des grands initiateurs de ce mythe, peut-être volontairement, on ne sait pas trop, d'avoir renforcé cette idée d'une obscurité du Moyen-Âge pour mieux faire ressortir les Lumières. Et au XIXe siècle, ce mythe s'est prolongé de deux façons. D'abord pour renforcer le poids de la science contre l'Église, à une époque de grands débats autour du darwinisme, notamment, donc on a voulu renforcer la légende noire de l'Église, qui n'en avait peut-être pas besoin, vraiment, mais la renforcer en insistant sur la stupidité de certaines idées défendues. Et aussi, au XIXe siècle, on a commencé à réhabiliter très fortement la figure de Christophe Colomb, qui jusque-là était assez secondaire, dans l'histoire de la conquête de l'Amérique, et à un moment où il faut redorer un peu le blason des conquêtes, puisque la colonisation est à un moment assez important dans les opinions publiques européennes, il faut remettre un peu au centre des passions l'idée de conquête, et donc la figure de Christophe Colomb est ressortie un peu du placard, et mise en avant avec l'idée qu'il aurait dû lutter contre tous les préjugés de son temps, et en particulier le préjugé d'une terre plate. qui aurait en tout cas compromis ses plans, et donc il aurait dû comme ça montrer que la Terre était bien ronde, et l'un des enjeux de ses voyages aurait donc été de montrer que la Terre était ronde. Or c'est faux, il n'y a jamais eu cet enjeu-là de montrer que la Terre était ronde, le seul enjeu dans le départ de Christophe Colomb était la distance de trajet, qu'il a cherché sans cesse à sous-estimer, à minorer, de manière à convaincre le roi de financer ses plans. Alors voilà, le livre montre un peu tout ça, et le livre insiste dans sa première partie surtout sur la façon dont on n'a jamais oublié au Moyen-Âge que la Terre était ronde. Il y a eu certes certains textes, un texte en fait, un père de l'Église, Lactance, qui a écrit des choses rejetant la sphéricité de la Terre, et notamment à propos de l'existence des antipodes, c'est-à-dire d'un autre côté, et en disant qu'il était impossible qu'un antipode existe, donc ça veut dire que la Terre n'est pas ronde, mais il est quasiment le seul. L'autre à avoir écrit des textes montrant, enfin, argumentant en faveur d'une Terre plate, c'est un théologien qui s'appelle Cosmas, mais qui n'a pu avoir aucune influence sur le Moyen-Âge, puisqu'il n'a pas été traduit en latin avant 1707. C'est un chrétien grec qui écrivait en grec, et son texte est resté extrêmement confidentiel en réalité, et il n'a été redécouvert qu'au XVIIIe siècle, donc il n'a pas pu avoir d'impact sur le Moyen-Âge. Et au contraire, toutes les traces qu'on a du Moyen-Âge, de manuels un peu de vulgarisation scientifique, ou à l'adresse donc des universitaires ou des non-universitaires, mais qui étaient capables quand même de lire, tous ces textes parlent de la Terre comme d'une sphère, et il n'a jamais été question donc d'une Terre plate. Voilà, donc ça c'est ce que le livre montre de façon très convaincante, et montre aussi pourquoi effectivement on est allé vers l'idée d'une Terre plate au Moyen-Âge, quelle stratégie argumentative ça a servi. Voilà, donc pour en finir avec ce mythe de la Terre plate, il y a paradoxalement certainement plus de gens aujourd'hui sur la planète qui pensent que la Terre est plate, notamment aux États-Unis, qu'au Moyen-Âge, en fait. Voilà, c'est assez paradoxal, mais c'est important de le savoir. Donc je vous recommande vraiment la lecture pour en finir donc avec ce mythe, cette idée fausse, qui est un peu la première infox en fait de l'histoire, hein, mise en place donc au XVIIIe siècle. C'est assez rigolo. Ça s'appelle La Terre plate, généalogie d'une idée fausse, de Violaine Giacomotto de Chara et de Sylvie Noni, aux éditions Folio. Donc voilà, et bien nous on se retrouve bientôt. Après peut-être une pause estivale. Voilà. Bon été à toutes et à tous. À bientôt.
Retrouvez Au fil de l'eau une fois par mois. Le mardi matin en première diffusion. En replay le samedi suivant. Et sur le site de Pigouille Radio, à l'heure qui vous chante. N'oubliez pas d'envoyer vos questions au fil de l'eau @pigouilleradio.fr.